Mathilde Cérel, bonjour Mathilde.
Bonjour Guillaume. Vous
êtes habillée de manière un peu étrange, plus étrange encore que chaque jour, car la Fashion Week parisienne, la semaine des défilés donc, qui vient de s'ouvrir, l'occasion pour vous de poser cette question: pourquoi un bon photographe de mode est-il un nanti photographe de mode?
Oui, prenons exemple sur Irving Penn. La première rétrospective européenne consacrée au photographe américain depuis sa mort en 2009 vient de démarrer au Grand Palais, et ça n'est pas un hasard de calendrier, c'est juste avant le début de la semaine des défilés à Paris. En travaillant pour la Bible du secteur, le magazine Vogue, pendant plus de 60 ans et au moins 15 ans pour des campagnes publicitaires, Irving Penn n'incarne pas a priori l'anti-photographe de mode. Et pourtant, dès le départ, en 1938, assistant au Harper's Bazaar, autre bible de la mode, Irving Penn s'offre un appareil Rolleiflex pour pouvoir photographier ses sujets à lui. Il s'agit d'enseignes et de devantures qui reflètent la grande dépression économique. Penn a un attrait pour le documentaire et une filiation avec un grand photographe de la crise, Walker Evans, loin de la mode et du glam. Quand on songe à la première couverture de Vogue en 1943 signée d'Irving Penn, on y décèle son manifeste esthétique. C'est une série de natures mortes inspirée de natures mortes hollandaises du XVIIe siècle. La tasse de café froid au milieu des jeux de cartes et d'une allumette brûlée, la mouche collée sur le citron pour annoncer sa putréfaction sont autant de vanités. C'est-à-dire des manières de méditer sur la mort et la fugacité dérisoire de l'instant, autant de memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir, qui renvoie à la condition humaine bien sûr, mais aussi à la profession. La mode, où règne l'éphémère, doit se souvenir qu'elle va mourir. En 1950, lorsqu'Alexander Lieberman, son directeur artistique et protecteur chez Vogue, demande à Irving Penn de mettre un smoking et d'assister au défilé, Penn refuse les clichés fébriles et les mondanités. Tout se fera dans l'isolement d'un studio spartiate, avec cette idée géniale: réserver le même traitement sculptural et distancé à une série de mode comme une série sur les petits métiers. Boucher et Balenciaga, même combat. Loin des crâneries et des tendances, avec Penn, la mode devient un costume comme les autres, une forme manifeste qui vaut pour toutes les collections qu'il photographiera à l'avenir. Enfin, anti-mode, Irving Penn l'est aussi dans sa pratique du portrait des grands artistes. Durant un demi-siècle, il saura se départir d'une image à la mode, justement. L'important est d'aller au-delà de la façade publique de la célébrité qui arrive armée de l'image qu'elle a d'elle-même, dira-t-il. C'est cela qu'il se passe dans la relation qu'il va tisser avec ses modèles, où Irving Penn résiste à la mise en scène de l'icône par elle-même. Ainsi, Marlène Dietrich semble presque effrayée, Picasso est comme percé à jour et Miles Davis abandonne ses breloques. Souvent comparé à son contemporain et concurrent, le photographe de mode Richard Avedon, Irving Penn faisait remarquer que si son confrère captait brillamment un aspect de la vérité qui est totalement momentané, lui recherchait l'épaisseur de la vérité. L'épaisseur de la vérité contre la fugacité de l'instant, c'est le secret d'un photographe au-delà de la mode.
Voilà, avec un formidable portraitiste à voir en ce moment même.
Au Grand Palais.
On termine avec une muse radicale. Mais c'est qui ?
Qui est cette dame ?
Je ne sais pas. Belle-mère.
Elle a 72 ans. Elle a longtemps été la muse du créateur de mode Rick Owens. C'est Michel Lamy.
Ah.
Figure excentrique.
On la retrouve.
Mais oui, mi-sorcière, mi-chamane, mi-gitane. Elle a été l'élève du philosophe Gilles Deleuze. C'est une aventurière de l'underground avec son cabaret de tous les possibles, les deux cafés à Los Angeles. C'est Hélène Azéra, figure de France Culture et militante historique des mouvements gays, lesbiens et trans, qui va la pousser vers la chanson dans les années 90. Elle lui fera découvrir le poète afro-américain Langston Hughes. Aujourd'hui, Michel Lamy s'en inspire dans une création sonore. Ça s'appelle Lavascar, présentée à la Galerie parisienne 12 Miles jusqu'au 20 octobre.